Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint. Nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous aujourd'hui. C'est mon fils Harrison qui prêche. Et quel message! Toutes les fois précédentes où je l'ai entendu parler, chaque fois qu'il a prêché, Dieu m'a parlé à travers son message. Et j'ai vu certaines choses sous une nouvelle perspective. Et ce message n'est pas une exception. Vous allez l'adorer. Bonjour, je suis Bill S. Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et cela peut parfois être très dangereux, mais j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Et je me demandais simplement ce qui se passerait si le Saint-Esprit se retirait de l'Église. Si le Saint-Esprit venait à se retirer de l'Église en Amérique, je me demande si 95% de ce que nous faisons continuerait. Et si les gens verraient la différence? En outre, j'ai pensé à l'Église primitive, celle dont parle le livre des Actes. Si le Saint-Esprit s'était retiré d'eux, 95% de ce qu'ils avaient expérimenté n'aurait pas eu lieu, et tout le monde aurait vu la différence. Et ce matin, je veux vous parler de l'un des problèmes majeurs de la chrétienté d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui est très douée pour mettre sur pied des systèmes et des structures. L'Église d'aujourd'hui est très douée pour mettre en place des programmes et développer des compétences. Tout cela est certes très important, mais une chose majeure semble manquer, notamment le pouvoir que donne le Saint-Esprit. En ce moment, nous sommes dans une série estivale de 12 semaines sur le pouvoir du Saint-Esprit. Nous parcourons à cet effet le livre des Actes ainsi que certaines épîtres de Paul. Et nous examinons de près l'Église à ses débuts, l'Église du Nouveau Testament. Et en particulier, nous étudions et soulignons l'œuvre et le mouvement du Saint-Esprit dans l'Église. Et comme vous le savez bien, le terme « Église » dans le Nouveau Testament ne se rapporte pas qu'à une structure physique, ou un bâtiment avec un clocher. Cette idée est certes inclue, mais le mot « église » en grec, qui est la langue originale du Nouveau Testament, est « ecclésia », qui de manière littérale signifie « les appelés ». Même sans une connaissance profonde des Écritures, on comprend rapidement que cette appellation est convenable pour les croyants. « Ecclésia », les appelés. Car nous qui avons accepté Jésus avons été appelés des ténèbres pour être amenés à la lumière, n'est-ce pas? Nous avons été appelés hors du royaume de ce monde, dans le royaume de Dieu. Et cette conversion d'un royaume à un autre, cet appel, si vous voulez, n'est pas dû à nos mérites. Notre conversion est purement un acte de la grâce de Dieu, et nous y accédons par la foi. Ce n'est pas une question d'œuvre, nous ne la méritons pas, nous ne pourrions pas du tout l'obtenir, nous ne devons rien payer. Non, c'est un don dont le prix a été payé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et tous ceux qui mettent leur foi en Jésus sont remplis de son Saint-Esprit. Le salut nous est donné et nous devenons son Église. Nous devenons son Ecclésia, ceux qui sont appelés. Et laissez-moi vous dire ceci dès le début. L'Église, vous et moi, en tant qu'individus, l'Église, c'est-à-dire vous et moi collectivement en tant que groupe de disciples de Jésus, l'Église ne pourra jamais faire valoir son potentiel sans la puissance du Saint-Esprit. Et dans la Bible, nous voyons l'exemple donné par l'Église du Nouveau Testament. Nous voyons sans aucun doute que ces premiers croyants comprenaient le Saint-Esprit et dépendaient totalement de lui. Ils dépendaient de sa direction, ils dépendaient de sa puissance. Dans notre christianisme du XXIe siècle, pourquoi ne voyons-nous pas régulièrement ces choses dont nous lisons dans les livres des Actes? Les dons sont-ils révolus? Les miracles et le surnaturel n'étaient-ils que pour le passé? Non, la réponse à cette question est un non catégorique, et je vais vous dire pourquoi dans une minute. Mais je réalise que les gens ici à Cottonwood sont un groupe de personnes diverses, et peut-être que certains ici ont grandi dans une doctrine ou une dénomination où on enseignait, dès le bas âge, que le Saint-Esprit et ses dons sont révolus, que les dons ne se manifestent plus. Les enseignements et les croyances selon lesquels les dons et la manifestation du Saint-Esprit sont révolus reposent, à mon avis, sur une compréhension incomplète de la Bible. En plus de cela, n'oubliez jamais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais lorsque nous examinons les Écritures, Nous ne pouvons nous empêcher de voir que le Saint-Esprit est actif dans le livre de la Genèse jusqu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse. Cela nous inclut, car en tant que croyants, nous sommes concernés par cela. Nous vivons dans les premiers, nous vivons dans les derniers jours, nous vivons à la fin des temps qui ont été prophétisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous attendons le retour imminent du Christ, et par conséquent, nous devons aussi nous attendre à voir le mouvement et la puissance du Saint-Esprit. En lisant la Bible, je ne peux m'empêcher de remarquer que nous, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'Ecclésia, devons vivre la manifestation de cette puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Si vous avez votre Bible, allons au début. Genèse 1. Genèse 1. Laissez-moi vous montrer l'œuvre du Saint-Esprit en action. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous allez reconnaître le passage. Il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis regardez cela. Et l'Esprit de Dieu planait. Ce mot signifie littéralement se mouvoir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Maintenant, voici ce que je veux que vous saisissiez. C'est la toute première mention du Saint-Esprit dans toute la Bible. Et elle nous révèle qu'il est en mouvement. Que le Saint-Esprit est en mouvement et que nous verrons du tout début jusqu'à la fin de la Bible que le Saint-Esprit est toujours en mouvement divin. Et lorsqu'il se déplace, la puissance créatrice et la puissance divine sont libérées. Donc, ici dans le livre de la Genèse, le Saint-Esprit, il plane, il se meut au-dessus de la surface de l'eau. Et que se passe-t-il? Le pouvoir créatif divin est libéré et il met de l'ordre dans ce qui est chaotique. Dans l'ensemble de la Bible, vous constaterez à maintes reprises que lorsque le Saint-Esprit est présent et commence à agir, sa puissance est libérée, les situations commencent à changer, les choses sont rétablies, les individus sont divinement habilités et le surnaturel prend place. Pensez à tous les exemples que nous voyons dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'est pas juste un concept ou une idée du Nouveau Testament. Bref, le Saint-Esprit n'est pas une idée, un point c'est tout. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité. Il est la troisième personne de la Trinité. Il n'est pas le beau-fils de la divinité. Il est tout autant Dieu que le Père est Dieu. Il est tout autant Dieu que le Fils est Dieu. Mais pensez à son mouvement à travers l'Ancien Testament. Nous le voyons à maintes reprises venir sur des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont reçu le pouvoir d'accomplir des choses inhabituelles et des exploits surnaturels. Et dans le Nouveau Testament, nous étudions les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous voyons le mouvement du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Pensez à la façon dont l'histoire commence. L'ange Gabriel se présente à une jeune adolescente nommée Marie. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il a dit, « Marie, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu et tu vas concevoir et donner naissance à un fils et son nom sera Jésus. » Elle est surprise. Comment? Elle dit, « Je suis encore vierge. » Dans Luc chapitre 1, verset 35, l'ange répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alors, je veux que vous voyez cette image. L'ange dit à Marie que le Saint-Esprit va agir et que la puissance de Dieu va venir sur elle et qu'elle va concevoir surnaturellement Jésus dans ses entrailles. Donc, le Saint-Esprit était déjà en action même avant la naissance de Jésus. Et 30 ans après sa naissance, Jésus était sur le point de commencer son ministère sur terre et nous le voyons se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. La Bible dit dans Luc chapitre 3 que lorsque Jésus sort des eaux du baptême, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit descend. Il se déplace comme une colombe. Et quel est le résultat de ce mouvement du Saint-Esprit? Jésus reçoit une puissance surnaturelle de l'Esprit. Après le baptême de Jésus, dans le verset suivant, Luc chapitre 4, verset 1, il est dit, « Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Allez au verset 18. Là, nous avons une description plus détaillée de la transmission du pouvoir du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Jésus dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. J'aimerais que vous notiez que Jésus n'a pas commencé son ministère sur terre avant d'avoir reçu la puissance de l'Esprit. Et si Jésus avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir son dessein ici, sur la terre, comment pouvons-nous penser être capables de réussir dans la vie, dans notre vocation et dans notre destinée, sans la puissance du Saint-Esprit? Voulez-vous savoir d'où venait l'amour et la compassion de Jésus pour les gens? De la puissance du Saint-Esprit. Voulez-vous savoir d'où venait la capacité de Jésus à diriger et à former ses disciples? De la puissance de l'Esprit-Saint. Voulez-vous savoir d'où venaient les guérisons et les délivrances qu'opérait Jésus? De la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, j'essaie de suivre ma vocation d'être un mari et un père selon le cœur de Dieu. J'essaie d'être un bon pasteur, un bon leader. Et franchement, j'ai plusieurs fois voulu accomplir cela par mes propres forces et avec ma sagesse humaine. Cependant, j'ai échoué toutes les fois où je l'ai fait. Si Jésus avait besoin de la puissance du Saint-Esprit, il va sans dire que j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'en ai besoin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et écoutez, ce pouvoir ne vient pas d'une seule prière, comme la prière de conversion du genre « Oh Dieu, ou à moi ». Non, cela ne fonctionne pas ainsi. C'est un besoin quotidien. C'est un souhait quotidien. Nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous en avons besoin demain, nous en avons besoin le jour suivant. Voici, je vais vous dire une chose qui sera un défi pour vous. Certains seront probablement froissés. Vous savez, beaucoup essaient de vivre et de servir Dieu selon une onction qu'ils ont reçue de Dieu il y a 10 ans. Et ils ne comprennent pas pourquoi les choses n'avancent pas. Ils sont découragés et vulnérables au péché. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne vivent pas dans la victoire. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Ils se demandent pourquoi ils ne grandissent pas dans leur relation avec Dieu. Ils ont l'impression de juste suivre une routine, d'être coincés. Ils ont perdu toute passion. De plus, ils ressentent une certaine indifférence et ne sont plus motivés à impacter leur sphère d'influence selon la volonté de Dieu. Ils ne voient rien de miraculeux dans leur vie. Quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, cela arrive lorsqu'on cherche à vivre selon une vieille onction. Vous avez besoin d'un vent frais. Vous avez besoin d'une puissance fraîche, vous avez besoin de nouvelles provisions. C'est pourquoi Paul a donné à l'église d'Éphèse les instructions suivantes dans Éphésiens. Il disait « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous aimez cela? La Bible King James dit « Soyez remplis ». Paul, en le disant, ne parle pas de l'expérience du salut, car lorsque nous disons oui à Jésus, il devient Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il nous remplit de son Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça que Paul parle ici. Il parle de l'après-salut. Il parle de quelque chose qu'expérimente un cœur qui a faim de Dieu. Comment puis-je le savoir? Parce que lorsqu'il dit « Soyez remplis de l'Esprit », ce mot « rempli » est à l'infinitif dans la langue originale. Cela signifie être rempli et être rempli encore et encore et encore et encore. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, même dans notre perfection, nous ne sommes que des vases avec des fuites d'eau. Et pour réussir dans notre vocation divine sur terre, nous devons être connectés à la fontaine. Cette fontaine, c'est le Christ. Nous avons régulièrement besoin d'être remplis jusqu'à débordement par la puissance de son Saint-Esprit. Et je vous dis que si nous le cherchons, si nous le souhaitons, si nous poursuivons cela, il nous remplira, il nous oindra, il nous donnera la puissance. Mais écoutez-moi. Peuple de Dieu, vous devez le vouloir. Vous devez le désirer. Vous devez le vouloir ardemment. Je prie pour que nous ne soyons pas complaisants. Que le Saint-Esprit nous donne de ne pas piétiner, d'aller de progrès en progrès, tout en repoussant toute stagnation. Je veux que nous bougions, que nous désirions avec ferveur l'assistance du Saint-Esprit, que nous voyons sa puissance se manifester dans nos vies. Et je suis certain que Dieu visitera chacun de nous selon le degré de son désir. Il rencontrera chacun de nous selon l'ardeur de son désir. La Bible dit ceci, je paraphrase, « Si vous cherchez Dieu et le cherchez avec tout votre cœur, pas avec votre une partie de votre cœur, pas quand cela vous convient, si vous le cherchez de tout votre cœur, de manière ardente, avec ferveur, si vous le cherchez ainsi, vous le trouverez. » Dans le cas des dons de l'Esprit et de l'habitation de l'Esprit, le même principe s'applique. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 12 et 14, qui sont des chapitres centraux sur les dons spirituels. Il répète sans cesse dans ces chapitres que pour voir les dons se manifester, il faut désirer. Il dit d'aspirer aux meilleurs dons, de vouloir ardemment les dons, de vouloir prophétiser, de vouloir ardemment l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous voyons certainement dans la vie de l'Église à ses débuts. Nous le voyons. Nous voyons que cette Église accomplissait tous les actes par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le livre de la Bible consacré à l'Église du Nouveau Testament s'appelle le livre des Actes, parce que ce sont les actes des apôtres, les actes des croyants par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela, les amis. Vous souvenez-vous de la Grande Commission? Jésus, juste avant de monter au ciel, dit quelque chose à ses disciples. Il nous dit quelque chose. Il dit que nous sommes en mission sur la terre. Il nous confie la grande commission. Je veux vous le lire. Marc chapitre 16, verset 15. Jésus dit ceci à ses disciples. « Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. » En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. C'est pourquoi Jésus a dit à ce même groupe dans Actes chapitre 1 que, les amis, avant de partir en mission, il y a quelque chose dont vous avez besoin. Voici ce que Jésus leur dit dans Actes chapitre 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre. Qu'est-ce que nous attendons? Jésus, vous attendez cette chose clé. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Allez au verset 8. Voilà pourquoi vous devez attendre l'Esprit, mais vous recevrez une puissance. Cela vient du grec « dynamis » et se rapporte au mot français « dynamite ». Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, cette promesse s'accomplit le jour de la Pentecôte. Alors que les disciples sont réunis dans la chambre haute, la Bible dit que le Saint-Esprit se met à agir. Le Saint-Esprit entre en scène comme un vent impétueux, et la puissance de l'Esprit se meut dans la pièce. Elle remplit les disciples. Ils sont embrasés par le feu de Dieu et reçoivent le pouvoir d'aller dans le monde comme Jésus leur avait demandé de le faire. Et c'est par la puissance de l'Esprit qui était en eux que les disciples ont mis le monde sans dessus-dessous. Écoutez, nous n'accomplirons jamais la mission que Dieu nous a confiée sans la puissance du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est plein d'exemples de vie rendue puissante par le Saint-Esprit. On y voit des guérisons surnaturelles, l'intervention de Dieu pour donner la direction et la sagesse par vision ou par prophétie. On y voit des anges, la répudiation des forces démoniaques. Des morts sont ramenés à la vie. Il y a des miracles de provision surnaturelles. On remarque un courage surnaturel de la part de ceux qui prêchent. On voit une générosité surnaturelle se manifester à travers l'Église. On voit une joie et une ferveur surnaturelle. Il y a une unité surnaturelle parmi les croyants. Et il y a plusieurs autres exemples. Nous n'avons que cité les plus apparents. L'idée centrale à retenir est la suivante. Je ne sais pas ce qui est en vous. Mais moi, je veux sincèrement voir le Saint-Esprit agir comme il l'a fait dans le livre des Actes des Apôtres. Je veux voir un grand réveil dans l'Église. Je veux qu'il y ait un réveil dans notre ville. Je veux un réveil dans notre nation. Écoutez, nous n'atteindrons pas la prochaine génération. Nous n'atteindrons pas nos adolescents et nos enfants sans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin de signes et de miracles. Écoutez-moi bien, la religion ne suffit pas. Nous avons besoin de la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Pour avoir une vie qui expérimente la puissance du Saint-Esprit, il faut suivre les traits marquants de l'Église du Nouveau Testament. Premièrement, ils étaient des gens de la parole. Ils étaient des gens de la parole. Je sais que c'est élémentaire, mais c'est peut-être ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Ils étaient des gens de la parole. Selon le verset que nous venons de lire, Actes chapitre 2, verset 42 dit, « Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres ou l'enseignement. » Qu'est-ce que cela signifie, doctrine ou enseignement? Il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. Le verset souligne le fait qu'ils y demeuraient avec constance. La traduction moderne dit qu'ils étaient obnubilés par la parole de Dieu. Ils n'en avaient jamais assez. Ils ne la recevaient pas seulement à l'église. Ils l'avaient à la maison. Ils étudiaient la parole avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs amis, même avec leurs voisins. Et nous allons y revenir dans une minute. J'ai une question pour vous. Comment comparez-vous votre vie à cela? Si quelqu'un regarde votre vie, pourrait-il dire que vous êtes obnubilé par la parole de Dieu? Parce que d'après mon expérience, il semblerait que beaucoup aient tellement de poussière sur la couverture de leur Bible qu'ils pourraient écrire leur nom dessus. J'ai une autre question. Avons-nous cessé d'accorder l'attention nécessaire à la parole de Dieu? Avons-nous cessé de mémoriser les Écritures? Pensons-nous que ce soit une chose réservée au culte des enfants? Non, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous vivons-elles si vite? Sommes-nous si facilement distraits que nous sommes devenus négligents en ce qui concerne notre amour et notre désir pour la parole de Dieu? Est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous y réfléchissons? L'écrivons-nous? La proclamons-nous? Et si nous regardons l'exemple de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons très clairement qu'ils avaient soif, qu'ils avaient faim de la parole de Dieu. Quel a été le résultat de cela? J'adore cela. Il s'agit en fait du verset suivant, Actes chapitre 2, verset 43. Il est dit que beaucoup de signes et de prodiges ont été accomplis par les apôtres. Il faut donc saisir l'image ici. Les signes et les prodiges se sont produits en même temps que les premiers croyants et leur profond besoin de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est déclarée avec puissance, cela crée une atmosphère propice aux miracles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, cette Bible que vous avez entre les mains, est vivante. Elle respire et elle est active. Ce n'est pas seulement un livre qui a été écrit dans l'Antiquité. Ce n'est pas seulement une histoire. Ce n'est pas seulement un livre rempli de principes et de moralité. Non, les pages de ce livre renferment la sagesse et la puissance de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, la foi commence à s'élever dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je vous le dis, dans le royaume de Dieu, tout est activé par la foi. C'est par la foi que nous avons le salut. C'est par la foi que nous héritons de la promesse. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que les promesses de Dieu deviennent une réalité dans notre vie. C'est par la foi que nous avons un pont qui nous relie à la puissance de Dieu. Et encore une fois, lorsqu'on considère les croyants du Nouveau Testament dans le livre des Actes, on remarque que l'action du Saint-Esprit est le plus manifeste lorsque la parole de Dieu est prêchée. On voit des guérisons surnaturelles, à tel point que l'ombre des apôtres guérit les personnes qui sont dans leur proximité de manière instantanée. Les démons sont chassés, les morts sont ramenés à la vie. Il y a des gens sauvés et libérés de forteresses démoniaques, des gens remplis de l'esprit qui reçoivent instantanément le don des langues. Ce ne sont ici que quelques exemples. Et en plus de cela, l'histoire a prouvé que lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est crue et lorsqu'elle est appliquée, elle peut bouleverser des civilisations entières. Elle éradique les ténèbres spirituelles, l'ignorance, la maladie, l'inégalité, la pauvreté, le racisme. Voilà l'essentiel. Si nous voulons des vies dotées du pouvoir du Saint-Esprit, nous devons d'abord et avant tout être des gens de la Bible. Si vous désirez la puissance du Saint-Esprit, lisez votre Bible. Mémorisez la parole de Dieu. Faites-en une partie de votre vie quotidienne. Passons à la conclusion. C'était des gens qui priaient beaucoup. Actes chapitre 2, verset 42. Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage, et en rompant le pain et dans les prières. Et quand ces croyants ont prié, le surnaturel a été activé. Des bâtiments ont tremblé, des villes ont changé, des prisons ont été déverrouillées, des anges se sont manifestés. Des visions ont été données, des morts sont revenus à la vie. Nous devons comprendre que, pour ces premiers croyants, la prière n'était pas quelque chose qu'ils faisaient en passant, lorsque leur emploi du temps le permettait. Ce n'était pas juste un supplément qu'ils ajoutaient à leur vie spirituelle. Ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient juste quand ils avaient le temps de le faire. Non, la prière faisait partie de leur identité. Elle les définissait. Leur vie s'articulait autour de la prière. C'était une priorité et c'était une nécessité pour eux. Et écoutez, les amis, je sais que nous vivons dans un monde qui va à toute vitesse. Je sais que la plupart des jours, du moins pour moi, on dirait que les jours ont moins de 24 heures. Mais est-ce possible que notre approche des choses ne soit pas la bonne? Or, ce qui nous a soutenus dans le passé ne peut nous aider dans le présent. Oh Dieu, nous avons besoin d'un vent frais. Nous avons besoin d'une nouvelle onction.
Dans le livre des Psaumes, le roi David a dit, je paraphrase, « Dieu oint moi d'une huile fraîche. » Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui.
Il n'a pas abandonné son Église. Nous sommes dans le royaume pour un temps tel que celui-ci. Je suis personnellement convaincu que nous allons voir un réveil mondial parmi les non-convertis. Nous allons vivre un réveil dans l'Église. Et en conséquence, des milliards, oui, j'ai dit des milliards de personnes vont se convertir dans le monde entier. Et je suis tellement reconnaissant d'en faire partie. Mes amis, la vie est courte, l'éternité est longue, le paradis est réel, l'enfer est brûlant. Nous devons nous occuper des affaires du Maître. Nous devons nous tourner vers le Seigneur pour trouver la force, pour être guidés, pour la provision quotidienne. Et avec l'onction du Saint-Esprit, nous pouvons faire ce qui est impossible aux hommes, car toutes choses sont possibles avec Dieu.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.